Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Philippe Lemonnier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Philippe Lemonnier, vous êtes journaliste, écrivain plutôt, et ethnophotographe principalement. Et puis vous êtes installé depuis quelque temps à Die, après l'avoir connu depuis environ une dizaine d'années. Mais vous étiez avant sur Paris, hein?
Oui, j'habitais la région parisienne, mais mon métier d'écrivain voyageur, notamment, ou d'ethnophotographe, les deux activités qui se complètent, m'a amené à découvrir la France, à être... notamment à pied, de découvrir la France à pied, et à découvrir effectivement, il y a une dizaine d'années, le Diwa, dont je suis tombé amoureux, et sur lequel, où je suis revenu plusieurs fois avec l'idée de m'y installer un jour, et voilà, il y a 18 mois, j'ai fait le pas.
Vous êtes ici présent pour nous présenter une conférence que vous donnerez vendredi 19 janvier à l'espace social, au palais social du Diwa. Et avec un thème sur le chemin des Huguenots. On peut peut-être résumer globalement la teneur de la conférence.
Oui, la conférence donc va avoir lieu le samedi, le vendredi 19 janvier sur ce thème, le thème que vous venez d'évoquer, le chemin des Huguenots. Je vais essayer en 1h-1h30 de raconter l'histoire de chemin qui n'est pas un chemin de randonnée, qui est un chemin de voyageurs à pied et qui était aussi un chemin d'exil des protestants lorsqu'ils étaient persécutés par les dragons de Louis XIV après la révocation de l'Édit de Nantes, c'est-à-dire après 1685. Et notre région, je me permets de dire notre pour la Drôme, maintenant j'y habite, donc la Drôme et l'Isère sont deux régions où le protestantisme s'est développé sur le catholicisme. Et donc un chemin était tracé par une association, ce n'est pas moi qui ai tracé le chemin, hein. Je n'ai fait que reprendre le chemin d'une association qui travaille depuis une dizaine d'années sur ce chemin, qui part du Poitou de Laval, on pourrait dire pourquoi, et je le dirai pourquoi d'ailleurs à cette conférence, et qui se termine du côté de Luisendorf, dont la ville de Die, avec laquelle la ville de Die est jumelée, sur 1500 km, traversant donc la France, 4 départements, la Drôme, l'Isère, comme j'ai cité, mais également la Savoie, la Haute-Savoie, ensuite traversant la Suisse et traversant l'Allemagne. Ce chemin a été retracé par des historiens et est aujourd'hui exploité par une association qui s'appelle Sur le pas des Huguenots. Et comme moi, je suis toujours un passionné par les chemins, et donc mon éditeur m'a demandé d'écrire un livre sur ce chemin. Et comme je fais les chemins réellement à pied pour mon plaisir et à la fois pour que le livre, enfin tout au moins je l'espère, que cette perception du voyage à pied transpire dans le livre, voilà comment j'en suis arrivé à ce chemin des Huguenots.
Cette fascination pour l'histoire des chemins vous est venue comment? Qu'est-ce qui vous a intrigué au départ?
Il y a un certain nombre de choses, mais je crois que la première chose, c'est une expérience qui est très ancienne, qui date de 1965. J'étais gamin et je suis parti marcher tout seul en Dordogne. Et j'ai découvert un monde, moi qui étais parisien, qui connaissais que la ville, j'ai découvert des choses extraordinaires. Je dormais à la Belle Étoile, on était en plein été. J'ai vu, pour la première fois, je voyais un ciel étoilé, mais pas deux, trois étoiles, un ciel merveilleux, des étoiles filantes. Je me couchais auprès d'un arbre. Voilà. Et c'est là, ça fait que finalement, depuis 40, 50 ans, je marche en France. Alors, j'ai pas fait que ça, mais j'ai beaucoup marché en France. Et ça a été une passion. Après, la deuxième chose, c'est que j'ai été amené à travailler pas mal en anthropologie, sur le nomadisme, enfin sur la dichotomie qui existe entre le nomadisme et le sédentarisme, quelque chose qu'on peut situer entre 8 et 10 000 ans par rapport à aujourd'hui. Et effectivement, de fil en aiguille, je suis arrivé sur la marche, sur le voyage à pied. Et là, j'ai constaté, mais c'était simple, le constat était simple, mais il fallait le faire, que nous marchons depuis 2 millions d'années. et que ça ne fait que 150 ans depuis l'avènement du chemin de fer et ensuite de l'automobile qu'on se pose la question si on va aller autrement qu'à pied. Et ça, ça m'a fasciné, et ça m'a doublement fasciné, c'est que, à bien y réfléchir, le chemin, c'est le premier média entre les hommes. C'est vraiment le premier. S'il n'y a pas de chemin entre deux hommes, il ne se voit pas. C'est vraiment le premier média entre deux hommes. Et de fil en aiguille, voilà, alors j'ai travaillé sur, je me suis mis à travailler, mais il y a très longtemps, sur les écrivains voyageurs qui sont passionnés, notamment ceux qui sont à pied, à rechercher beaucoup d'informations sur les marches protestataires, la marche de Mao, la marche verte, la marche de Gandhi, ensuite des évasions. Et je me suis aperçu qu'effectivement, c'est plus qu'aperçu, j'ai conclu à la hauteur de ma propre personne que l'homme, ce qui fait l'homme, c'est sa bipédie. Et que si demain la bipédie disparaît, j'ai l'impression que cette humanité que nous connaissons et qui est celle d'aujourd'hui aura disparu.
Vous parliez de bipédie, c'est le propre de l'homme, forcément.
Alors, je pourrais citer comme anecdote, comment il s'appelle, Diogène, quand on lui demandait de définir ce qu'est l'homme, il disait c'est un bipède qui n'a pas de poils. Il est sorti de l'assemblée du Cénacle, il est allé chercher un poulet, il l'a plumé, il l'a lancé dans le Cénacle, il disait voici un homme. Mais non, oui, je pense que ce qui nous caractérise essentiellement, c'est la bipédie. Lorsque un enfant naît, la première chose qu'on attend, c'est ses premiers pas. Et quand vous commencez à ne plus marcher, sauf par accident ou par handicap, quand vous commencez à ne plus marcher, vous arrivez vers la fin de votre vie. Donc toute notre vie est orientée vers cette bipédie. Lorsque Armstrong, en 69, même si la phrase a été préparée d'avance, arrive sur la Lune, il dit « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Ensuite, dans notre monde qui commence un peu à, enfin tout au moins, si vous me permettez un avis, un peu à déraisonner, la seule mesure qui puisse nous permettre de revenir à quelque chose d'un peu équilibré, c'est à l'aune de notre pas. Tout ce qu'on peut mesurer à l'aune de notre pas et tout ce que l'on peut voir. Lorsque, par exemple, on prend le TGV, qui est un outil extraordinaire que j'utilise, on n'est pas voyageur, on est voyagé. Quand vous faites Paris-Marseille en TGV, vous ne pouvez pas dire « j'ai voyagé, vous n'avez rien vu ». Par contre, si vous le faites à pied, vous avez voyagé. Et là, vous avez pris la teneur de tout. Vous avez d'abord pris la teneur du kilométrage, parce que vous ne faites pas une journée. Mais vous avez pris la teneur également du climat, de l'intempérie. Vous avez pris la teneur de l'architecture, qui se change au fur et à mesure du paysage, et du paysage qui change lui-même. Et vous avez vu des terroirs, vous avez rencontré des gens différents. Bon, vous pouvez dire que vous avez voyagé. Et donc, vous êtes resté humain, au sens profond du terme. Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que la bipédie est quelque chose, plus encore que Bergson disait le rire est le propre de l'homme, la bipédie est le propre de l'homme.
Vous avez certainement voyagé à travers la planète.
Non, très
pas
peu.
Vraiment.
Non, je me suis beaucoup consacré à la France, oui. D'abord parce que c'est tellement facile. Vous prenez un TGV, moi j'habitais Paris, je prends un TGV, je descends du TGV et avec mon sac à dos, je pars 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois et avec des paysages qu'on ne suppose pas. Et puis deuxièmement, j'avais lu pas mal d'écrivains voyageurs et il s'est avéré que tous ces écrivains voyageurs qui ne recherchaient pas l'exotisme, c'est-à-dire à vraiment très loin voyager en France, et que ceux-là sont tous morts. Donc je me suis dit, ce pays me plaît, j'ai envie de continuer. Alors bien sûr, j'ai voyagé en Italie, j'ai voyagé en Espagne, en Allemagne, en Suisse, mais je ne suis jamais au bout du monde marché. Je ne fais pas de trekking, j'essaie d'expliquer ce qui n'est pas très simple, c'est que je ne suis pas un randonneur, je suis un voyageur à pied. C'est-à-dire que le pied, c'est mon média pour me déplacer. C'est mon vecteur, pardon, excusez-moi, c'est pas mon média. C'est mon vecteur pour me déplacer. Mais je suis un voyageur à pied. Je n'hésite pas, sur certains voyages, bien sûr, je dors dehors ou je dors dans des gîtes, mais sur certains voyages, je pars à pied, je prends un petit hôtel, je prends une douche, boire un verre de vin et manger un bon plat chaud le soir, même si je suis depuis 3 semaines en route, ça ne me dérange pas, mais je continue mon voyage à pied pour essayer de découvrir le chemin ou le pays que j'ai choisi de découvrir.
Vous avez principalement bougé sur le territoire national. Est-ce que vous pourriez expliquer, est-ce qu'il existe une synthèse de ce qu'est un chemin, mis à part la relation entre humains ?
Alors, on va essayer. Je vais essayer, parce que c'est pas simple, votre question. Et il y a beaucoup de philosophes, beaucoup d'anthropologues, beaucoup d'archéologues, de géographes qui se sont penchés sur cette question. Qu'est-ce qu'une route? Et notamment Régis Debray dans un de ses ouvrages importants. Si on veut parler un petit peu de la marche d'agrément, pour la marche d'agrément, il y a deux choses. Il y a essentiellement ce qu'on appelle les GR, les PR, c'est-à-dire des chemins qui ont été repérés, qui sont balisés et qui, plus ou moins, parce que ce n'est pas toujours vrai, permettent d'avoir des structures d'hébergement ou de ravitaillement, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais bon, le chemin, il est balisé, il est tracé, il est répertorié. D'ailleurs, on crée des chemins. Je ferai une parenthèse, les chemins de Compostelle. Si vous voulez réellement prendre le chemin de Compostelle, vous n'allez pas prendre les GR qui sont pourtant bien repérés comme tels. Vous prenez les nationales. Vous êtes sûr, même si elles sont à quatre voies, vous êtes sûr d'être sur le chemin du Moyen-Âge. Bon, ça, voilà, ça, c'est vraiment les chemins. Alors, c'est des GR, c'est des PR, c'est-à-dire des petites randonnées, c'est des chemins régionaux, c'est des tracés qu'une ville décide. Enfin, voilà, c'est bien repéré, c'est bien balisé. Voilà. Et puis après, il y a la lecture de la carte qui est une autre aventure où on accepte un peu plus d'aléas, c'est-à-dire qu'on décide de traverser un territoire et en fait, bon, certes, on sait qu'on part d'un endroit et on va aller vers un certain azimut, c'est-à-dire par exemple le sud, mais ça peut être l'est-ouest. Et puis à partir de là, avec une carte IGN, enfin avec une carte 25 millième, on essaie de tracer son chemin au mieux, avec de très belles surprises en général, avec bien sûr l'idée que on peut peut-être être amené à dormir sous un arbre parce qu'on n'a pas trouvé, ou parce qu'on était persuadé que telle ville ou tel village allait vous donner une boulangerie, un hôtel, un lieu, et puis il s'avère que vous traversez ce village, il n'y a plus un café, il n'y a plus une boulangerie. C'est tout juste si vous trouvez quelqu'un pour vous renseigner. Bon, voilà, ça, c'est vraiment les deux types de chemins que l'on peut imaginer, sachant que ça peut être, en termes de géographie et de relief, aussi bien en montagne, en plaine, en forêt. Je ne vois pas. Après, est-ce qu'on peut donner d'autres chemins? Le chemin, c'est peut-être pour rajouter quand même, notamment si on essaye de... Si on fait un retour dans le temps plus encore qu'aujourd'hui, le chemin, c'est vraiment là où les hommes ont, à un moment donné, à un moment X, coutume de passer avec de la sécurité et avec une structuration qui soit pour s'alimenter ou pour dormir ou pour avoir des renseignements. Voilà, c'est ça, et c'est ce que faisaient les pèlerins du Moyen-Âge. Aucun pèlerin du Moyen-Âge n'avait envie de faire de la randonnée. La forêt leur faisait peur, l'eau leur faisait peur. Puis quand vous habitiez un village, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de cabine téléphonique, il n'y a pas de SAMU. Vous quittez votre région pour aller, par exemple, à Compostelle, entre 1300 et 1800 km plus loin, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer quand vous aurez dépassé votre canton. Vous ne pouvez pas savoir la langue, la nourriture, le danger, etc. Donc les gens, sur ces chemins-là, avaient l'habitude d'utiliser purement et simplement la voie la voie de communication la plus sécurisée à leurs yeux du moment.
Je voulais savoir, est-ce que l'homme aussi a appuyé des passages ou des sentiers pratiqués par les animaux aussi?
Alors, oui, alors, bon, il y a deux éléments de réponse, enfin, il y a plusieurs éléments de réponse en ce qui concerne votre question. La première, c'est que, je vais commencer par redire une évidence, mais si vous le permettez, c'est que toute la Terre a été colonisée à pied. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de sentier vraiment. Réellement. Donc l'homme va créer son sentier, mais il va prendre les pistes qu'il va rencontrer. Ça peut être des pistes animales. Ensuite, en montagne, même si c'est une image d'Épinal, ce n'est pas tout à fait faux, c'est quand même en mettant l'âne devant que l'on trace les sentiers. Parce que lui, il sait chercher la bonne pente, minimum, pour tracer les sentiers. Il est certain que lorsqu'on voit certains sentiers d'animaux, on en repère assez facilement, on le voit notamment près des rivières. Non, il n'a pas utilisé toutes les sentes animales. Mais l'homme n'est pas au-dessus de la nature, c'est un animal dans la nature. Et il réagit pareil, même si aujourd'hui, le progrès technologique des deux ou trois derniers siècles nous a un peu éloignés de la nature. Mais si on regarde aujourd'hui les 300 millions de peuples premiers ou de peuples nomades qui restent, et c'est pas du tout péjoratif comme pour moi, ils ont toujours les instincts, l'instinct et la connaissance qu'ont les animaux.
Et puis il y a un facteur aussi, c'est l'eau.
Alors ça, c'est un facteur très important, l'eau. On pourrait faire un des livres entiers sur l'eau. Pour le voyageur, l'eau, c'est la chose la plus... je ne vais pas dire essentielle parce que elle n'est pas toujours favorable. C'est la chose principale d'un voyage, l'eau. Parce que c'est l'eau que l'on va boire, qu'on va rechercher. Or, aujourd'hui, dans le temps, on est très méfiant sur l'eau. On ne sait pas très bien si l'eau est bonne ou elle n'est pas bonne. Il y a des histoires écrites au XIIe siècle sur Compostelle à propos de l'eau, des eaux empoisonnées, des eaux... Bon, voilà. Donc, aujourd'hui... je ferai un commentaire parce que l'eau, de moins en moins, on trouve d'eau. Le voyageur ne trouve d'eau. À Paris, on a fermé 1000 fontaines. On ne peut plus boire à Paris, dans un à part d'aller dans un bistrot. C'est-à-dire, si on se promène, qu'on a besoin de 2 litres d'eau, à 3 euros les 333 centilitres, vous y laissez votre journée. Dans les villages, les maires, et je n'hésite pas à le dire, mettent partout que les fontaines sont eau potable. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'ils ne veulent pas payer le fait de faire l'analyse pour vérifier quand même, parce que les eaux peuvent être polluées, soit parce que plus haut, il y a des alpages et autres, ce qui n'est pas très logique. Et la deuxième, c'est surtout que beaucoup de villages n'acceptent pas ce que je vais appeler le nomade. Et donc, en mettant ça, ils empêchent les gens à voyager. On arrive en France à ne pas pouvoir voyager à pied, mais vraiment... en prenant son sac à dos. Je veux dire, en foutant la paix au monde, vous n'utilisez pas d'essence, vous ne faites rien, vous dépensez de quoi acheter votre sandwich ce midi, vous voyagez à pied et vous ne pouvez pas boire. Donc, il y a l'eau pour boire qui est pour le voyageur. Ensuite, il y a les eaux qui tombent sur la tête. Il faut dire que quand on a passé une journée sous la flotte, on n'est pas vraiment au mieux de sa forme, même si aujourd'hui, on a quelques vêtements quand même qui nous protègent. Ce qui n'était pas vrai au Moyen-Âge. C'était une grande peur. Une fois que vous êtes trempé, vous n'avez qu'une pèlerine. Vous êtes trempé, vous pouvez être trempé pendant des jours. Et on a beaucoup de récits de gens malades qui s'arrêtent dans les églises parce qu'ils ont été après la crève. Puis après, il y a l'eau à traverser. Alors ça, c'est la grande peur, que ce soit l'eau de mer ou que ce soit l'eau de rivière. Là, on a très peur. D'ailleurs, la Garonne est un fleuve très dangereux. Alors, on cherche le pont, mais il n'y a pas toujours des ponts, ou le pont a été détruit. On cherche le passeur, mais les passeurs ne sont pas toujours très honnêtes. Ça arrive de balancer leurs clients par-dessus bord pour garder leur bagage et l'argent. Et puis l'eau de mer, où à ce moment-là, on ne fait que caboter, parce qu'on a très peur de quitter la côte des yeux. Et peut-être faire une réflexion par rapport au pas du gnaud, peut-être pour revenir un petit peu. On parle de l'eau. Quand j'ai écrit ce livre sur le pas des gnaud, j'ai fait le voyage en 2015 et le livre a été publié en 2016. Pendant que j'écrivais le livre, il s'est passé des choses assez fortes que je vais essayer de vous traduire en quelques mots. La première, c'est que je découvrais, en travaillant sur les documents, au moment où nous entendions à la radio tous ces problèmes liés aux émigrés, que la Savoie et la Haute-Savoie, en 1685, créent un délit de solidarité pour tous ceux qui aidaient les protestants à passer. Donc, on est en 1685, on n'est pas en 2000, on n'est pas en 1700. Et deuxièmement, je continuais d'écrire et je lis des textes d'un pasteur que je cite dans le livre, là, sur le moment, j'ai oublié son nom, qui raconte, nous sommes en 1685, que tous les jours, il y a des bateaux qui quittent Genève sur le lac, avec des passeurs plus ou moins honnêtes qui dépouillent les familles. Et tous les jours, on déplore malheureusement des enfants et des femmes et des hommes noyés sur le lac. Et nous sommes en 1685. Et quand on écrit ça, on est dans l'histoire, mais qu'en plus, à ce moment-là, la radio vous renvoie cette image, il y a quelque chose d'assez fort. Voilà. Donc c'était pour un peu aussi reparler de l'eau à nouveau, mais en la centrant sur le chemin des gnaud.
Est-ce que vous êtes parti aussi, vous vous êtes inspiré de textes ou d'écrits, vous en avez cité quelques-uns, qui se rapportaient justement à ce chemin des gnaud?
Alors, pour la plupart des chemins, j'achète les livres avant de partir, mais je les lis qu'après.
Mais je veux dire, historiquement ou oui, par oui, étude oui. Historique
oui. Ah oui, oui, oui. Enfin, je ne parle pas des guides. Les guides, je ne lis pas de guide et je n'écris pas de guide. Le guide est un livre qui est éphémère parce qu'une fois qu'il est paru, il est déjà complètement obsolète. Mais en plus, ne me présente pour moi aucun intérêt qui a envie de voyager sur le chemin. Par contre, sur les livres d'histoire ou les témoignages, oui. Mais c'est vrai que j'ai tendance à les acheter avant, mais de les lire qu'après. Par contre, effectivement, après, je fais des recherches. Non seulement des recherches, en fait, on peut dire qu'il y a trois sources en fait, d'informations. Il y a effectivement ce qu'on vient de dire, les recherches qui peuvent être livresques, voire Internet, mais je me méfie beaucoup d'Internet, donc j'ai une bibliothèque assez sympathique, donc je me sers beaucoup de ma bibliothèque. La deuxième source d'information, c'est que j'ai autour de moi où je me permets de contacter des gens qui sont spécialisés dans quelque chose. Pour le pas des Huguenots, j'ai un de mes amis qui est historien, qui est médiéviste, qui est philosophe et qui est protestant, qui a travaillé beaucoup sur les cathares, sur les chemins. Donc c'est lui, par exemple, qui a tout validé la partie historique nationale que j'ai fait encadrer dans le livre. Donc je lui ai fait tout relire de manière à être certain de ne pas être trouvé. Et puis, au fur et à mesure de voyage, je pose beaucoup de questions. Le pas des Huguenots, le chemin des Huguenots raconte un certain nombre d'anecdotes presque dans toutes les parties du parcours des villes. C'est des témoignages que j'ai récupérés. Alors, bien sûr, je suis prudent. Soit je valide, soit si je ne peux pas valider, je dis qu'on me l'a raconté, je le mets au conditionnel. Donc voilà, ça, c'est les trois grandes sources que j'ai. Et puis, je vais en rajouter une autre quand même. Ma propre appréciation des problèmes. Voilà. Lorsque je mixe ces quatre sources, ça donne un livre. Alors après, je ne suis pas en tant qu'auteur capable de juger la qualité.
Vous citiez le chemin des Huguenots, le chemin de Compostelle, et puis vous citiez aussi les cathares. Est-ce que le chemin est inhérent à la religion ou inversement ?
Non, le chemin n'est pas inhérent à la religion.
Mais est-ce qu'il existe d'autres cas de figure de chemin
oui,
sans
oui,
forcément
oui,
passer
oui,
par
oui, on peut en citer.
Une idée
oui,
religieuse
oui, oui. Là, je vais répondre donc en deux temps. La première, oui, bien sûr, vous avez le chemin de Stevenson en France, vous avez la côte d'Opale, vous avez le chemin de Wagner qui fait le tour de la Bretagne. Vous avez, que je vous cite que des chemins avant de revenir sur la religion, vous avez quand même la route du sel, la traversée des Pyrénées, vous avez la traversée des Alpes, des Vosges, du Jura, vous avez, alors que je cherche encore une fois des chemins qui soient... Bon, la Méridienne verte, même si chemin n'est pas tracé, il existe, je l'ai parcouru en 2000.
Les voies romaines aussi.
Alors, il existe les voies romaines. Alors, il faut se méfier des voies romaines un tout petit peu, parce que dès qu'il y a un pavage, on appelle ça voie romaine. Ce n'est pas toujours une voie romaine, mais il y a les voies romaines, effectivement. Bon, il existe quand même des... Après, vous pouvez... Oui, la forêt de Brocélande, donc qu'on traverse et qui ne fait pas rapport à la religion, mais qui fait rapport, par contre, aux Asturiens, à la légende arthurienne, pardon. Pas aux Asturiens, à la légende arthurienne. Bon, il y a un certain nombre de chemins. Par contre, ce qu'il faut voir, à mon sens, c'est que, et aujourd'hui on le voit malheureusement de manière fondamentaliste, c'est que chaque pays a sa religion. Et que finalement, si aujourd'hui on a une forme... d'athéisme ou pas qu'une forme de l'athéisme qui se développe, ce que moi je conçois personnellement, même si pour moi le sacré doit exister pour l'homme, même si je peux m'en passer, et que chacun pense ce qu'il a envie en matière de religion, en espérant purement et simplement pour moi que ça reste du côté du domaine de l'intime. Hein, je crois que je ne dis jamais à des gens que leur Dieu n'existe pas ou que Dieu n'existe pas. Je dis que je n'y crois pas, ce qui est complètement différent. Et dans mes livres, j'aborde beaucoup de choses de confession, jamais de Dieu, parce que pour moi, c'est intime. Mais bon, donc, on voit bien aujourd'hui que ça revient, fondamentaliste dans toutes les religions, mais elle a toujours fait partie de notre civilisation, on va dire. Donc, quelque part, les chemins... ils sont imprégnés de ça. Lorsque vous allez d'un village à un village, quelle que soit la raison pour laquelle vous y allez, vous avez de toute façon nos 36 000 communes, 36 000 et quelques, 36 000 églises, vous avez toujours un saint local, vous avez toujours un calvaire au croisement des routes, en haut d'une montagne. Donc, si vous voulez, on est quand même imprégné de notre civilisation. C'est tout, c'est la civilisation. Alors, c'est vrai que moi, je fais une différence entre ce qui est confessionnel, cultuel, et ce qui est culturel. Parce que même si on est, comme je citais tout à l'heure, on peut être athée, on vit quand même dans une culture judéo-chrétienne en France. On en pense qu'on veut, mais on ne peut rien changer. Donc, quelque part, tous les chemins sont un petit peu influencés pour ça. Des chemins donc, que je peux citer, mais qui, eux, sont influencés par la religion, c'est par exemple ce qui s'appelle le Trobrez, c'est-à-dire le tour des 7 saints créateurs de la Bretagne, qui est une légende, alors vrai, faux, qui date entre le 4e et 6e siècle de notre ère, et qui relate en fait l'arrivée de ce qu'on appelle les chrétientés celtiques, qui ne sont pas les chrétientés de Rome, qui vont donc créer les 7 grandes villes bretonnes, que sont Saint-Malo, Dol de Bretagne, Vannes, Quimper, Saint-Paul-Léon, Tréguier, et j'en ai oublié une, et Saint-Malo. C'est peut-être déjà dit Saint-Malo. Non, et Saint-Malo, donc voilà. Par Rennes et Nantes, qui étaient, eux, inféodés à Rome. En fait, si vous voulez, je me suis aperçu, mais bon, depuis longue date quand même, que le cultuel, ou tout au moins le culturel qui vient du cultuel, n'est jamais très loin dans tous les voyages.
È stato un tempo il mondo, giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto, famiglie e donne incinte. Fregamenti, facce, pance, gambe, braccia, dimora della carne, riserva di calore, sapore familiare e odore, e cavità di donna che crea il mondo. Veglia sul tempo lo protegge. Contiene membro d'uomo che s'alza e spinge, insoddisfatto poi disfrutta. Il nostro mondo è adesso debole e vecchio, puzza il sangue versato infetto. Compassione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria è.
Diogène, est-ce que dans les auteurs et ou du moins les philosophes de l'époque classique, est-ce qu'il existe des textes qui vous ont marqué et qui vous ont aussi intéressé et voire à peut-être vérifié?
Alors oui, il existe des textes. Alors je suis pas un universitaire, hein, je suis un autodidacte, donc comme tous les autodidactes, je peux savoir un certain nombre de choses, mais des tas de pans me manquent. Donc je suis pas un spécialiste des textes anciens, mais j'en ai lu un certain nombre. Mais par contre, il y en a un qui m'a passionné, mais qui passionne tout le monde, c'est l'Iliade et l'Odyssée. En réalité, l'Odyssée qui veut dire Ulysse en grec. Alors, et ce texte m'a intéressé de manière différente de la plupart des gens. Ce que j'avais voulu faire, que je n'ai pas encore fait, c'est, si vous regardez bien le texte, Ulysse, donc c'est le retour des 10 ans d'Ulysse après la guerre entre les Grecs et les Troyens, donc ça, on va laisser de côté l'Iliade, et il revient, il va mettre 10 ans, et 10 ans pendant lesquels il va être empêché en permanence de revenir, et où a priori, je dis bien, c'est un marin. Donc c'est une partie, non pas qui ne m'intéresse pas, je lis avec plaisir, mais je ne suis pas un grand fanatique de la mer, enfin, des voyages en mer, je ne suis pas un grand connaisseur en informatique, j'aime bien le plancher des vaches. Mais par contre, si vous regardez bien, toutes les aventures qui arrivent à Ulysse, elles sont sur la Terre. Et là, je voulais, comme il y a un ou deux auteurs comme Brodel et comme Cusinier qui ont travaillé sur les parcours d'Ulysse, et notamment Cusinier par rapport au vent, je voulais réellement aller sur les lieux, travailler en photographie et en écriture sur le voyage d'Ulysse, mais pas en bateau sur la Terre. Donc voilà, ça c'est un texte qui m'a pas mal inspiré. Après, un autre texte qui n'est que pour le citer, mais s'appelle Le Pèlerin, quelque chose comme ça. C'est un texte russe qui est une légende très ancienne et qui parle d'un pèlerin qui marche avec sa prière permanente. Il a une prière permanente, c'est-à-dire il répète en permanence et il traverse la Russie. Voilà, ça, c'est un texte qui m'a intéressé. On ne connaît pas très bien la source du texte. On ne connaît pas très bien la tour du texte. Donc, il y a un certain nombre de textes anciens et puis un des textes nouveaux. Je citerai des gens comme Nicolas Bouvier, comme Jacques Lacarrière, ou alors aussi, peut-être moins connu, mais vraiment à lire, c'est Bruce Chatwin. Bruce Chatwin, lorsqu'il écrit notamment Le Chant des Pistes, qui est une histoire extraordinaire, ou En Patagonie. Le Chant des Pistes étant une histoire de chemin. Mais si on peut en dire quelques mots du Chant des Pistes ?
Bien sûr.
Voilà. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est ce Chant des Pistes. En réalité, beaucoup d'Européens, des Anglais, notamment Bruce Chatwin, mais pas que lui, s'y sont intéressés. Et moi, je pense qu'on ne leur a jamais donné la vérité. Et ça me semble logique. Parce que les aborigènes se déplaçaient depuis 40 000 ans et se déplacent encore à partir d'un chant. Un chant, il y a un maître, on va dire, je ne trouve pas le mot exact, mais c'est un maître, et qui a notamment son disciple, et à quel il va apprendre un chant. Et ce chant permet à la tribu, au clan, de se déplacer sur un territoire très long en Australie, dans le bush, sans connaître à l'avance ce chemin, mais en trouvant les points sacrés et les points d'eau. Or, ce sont des cartes sonores, quelque chose que nous, on ne connaît pas. Et ça, c'est extraordinaire, ces cartes sonores. Beaucoup d'Européens ont cherché, on a écrit plein de livres, mais je suis à peu près convaincu que, comme les Tziganes n'ont jamais envie de dire réellement aux gadjos ce qu'ils font et comment, tout ce qu'ils connaissent, les Australiens n'ont pas très envie de raconter aux Européens exactement à quoi concerne leurs cartes sonores. C'est fabuleux. Nous, on n'a pas d'équivalent en ce qui concerne notre civilisation. Par contre, il y a des équivalents. Un équivalent au moins, ou une équivalent, je ne sais pas, un équivalent, on va dire, sur d'une tribu indienne du Canada, du nord-ouest du Canada, qui était semi-sédentarisée, donc ils avaient un totem, donc ils étaient semi-sédentarisés, et qui partaient à la belle saison pendant plusieurs semaines en mer en quittant la côte, et ils revenaient grâce à un chant. Ils retrouvaient grâce à un chant. Bon voilà, pour parler de chemins qui sont un peu différents de ce que on peut nous traiter, de ce dont on peut traiter ou connaître ici en Occident.
Est-ce que en France on peut encore s'estimer pouvoir être explorateur du territoire ?
Ah oui, je pense. Vous avez on a des paysages fabuleux. Et on a d'une part les paysages plus zones, mais on a une chance qui existe. J'ai pas fait 1000 pays, mais enfin j'ai visité quand même un certain nombre de pays qu'on retrouve pas. C'est que ces paysages fabuleux sont concentrés sur un petit territoire. On a en France des canyons. Quand on va dans les ocres du Roussillon, on est ultra surpris de ces canyons qui existent. On a des montagnes, comme les Alpes ou les Pyrénées qui montent jusqu'à 4500 mètres. On a des montagnes plutôt basses comme le Massif Central. La plupart, je vais faire une parenthèse sur ce Massif Central. La plupart des étrangers que je connais ignorent complètement le Massif central. Ils n'imaginent pas qu'une zone montagneuse qui fait quasiment un quart de notre superficie existe. Parce que, ben, ils viennent soit d'Espagne et du Portugal, et donc ils prennent la vallée et ils montent sur Tours, ou ils viennent de Marseille et ils prennent la vallée du Rhône. Ils ne se rendent pas compte qu'on a une sorte de comment essayer de dire, d'un territoire, et sincèrement, ce territoire n'est même pas traversé, n'est traversé par aucun chemin qui passe du nord au sud. Tous les chemins sont en circulaire d'est en ouest, et quand, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, de faire une conférence à Figeac et de décider de prendre le train à Clermont-Ferrand. Et je suis monté, mais c'est extraordinaire, la liberté, le sentiment de liberté qu'on a, et on peut explorer, d'abord parce que il y a quand même, mais même ici, dans notre région, combien de personnes ont réellement remonté à pied tout le long de la vallée de la Roanne, une vallée qui était fermée encore jusqu'au début du XXe siècle. Il n'y avait pas de route. D'ailleurs, on parlait de religion et de chemin avec beaucoup de mystère marial dans cette vallée, parce que justement, elle était fermée. Donc, les traditions, la peur, les superstitions, fait que, et puis le manque de communication, fait que ça générait ce besoin chez les hommes au veiller de parler du sacré. Voilà. Parce que ça, je pense que c'est une chose qui est commune à toutes les civilisations et à toutes les populations, c'est le sacré. Il y a besoin de ça. Il y a besoin.
Vous êtes donc écrivain, mais aussi ethnophotographe. Alors, ça rejoint un petit peu le terme de l'exploration. Tout à l'heure, est-ce que vous vous sentez explorateur quand vous pratiquez l'ethnophotographie ? Et qu'est-ce que vous photographiez ? Un territoire ou l'humanité ?
Alors, de toute façon, on explore toujours ce qu'on ne connaît pas. C'est une première chose. Ensuite, l'ethnophotographie ou l'ethnographie, on va parler par ça. Évidemment, dans l'esprit, je dirais, au premier degré, on pense à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, les ethnographes, beaucoup d'ethnographes, travaillent sur les banlieues, travaillent sur les drogués en France, travaillent sur les handicapés. Ils travaillent sur une ethnie, sur un groupe de personnes et qui n'est pas nécessairement un groupe, on va dire, exotique au sens géographique, parce que c'est exotique. J'ai vécu en banlieue parisienne, c'est exotique au sens propre du terme. J'habitais une cité où il y avait 90 nationalités. Il y a de l'exotisme. Bon, donc, si vous voulez, ce travail des ethnographes n'est pas toujours un travail très loin. Hein. Ça peut être un travail proche. Et en termes d'ethnophotographie, je fais la même chose, mais je suis plutôt orienté sur ce qu'on appelle les métiers et les savoir-faire. Et je ne photographie en noir et blanc et en ethnophotographie que des gestes, que des hommes, que des attitudes, que des métiers. Je n'ai pas de paysage. De toute façon, le noir et blanc ne s'y prête pas vraiment. Par contre, le noir et blanc permet de faire ressortir les gestes, que ce soit les ouvriers de la chaussure, que ce soit les viticulteurs, que ce soit les distillateurs, que ce soit, comme j'ai travaillé pour l'Institut Géographique National pendant presque 2 ans sur les métiers de la carte. Donc, soit sur le terrain, celui qui trace, soit dans l'avion, celui qui photographie, soit sur l'ordinateur, celui qui recartographie. Bon, voilà. J'ai travaillé aussi sur les métiers du livre. Donc, pareil, les imprimeurs, les composeurs, les compositeurs, les lecteurs publics. Enfin, voilà. C'est toujours des métiers. Alors, en matière d'ethnophotographie, pour ma propre personne, pour ma part, c'est là que se situe mon champ d'action et de connaissances.
On va revenir sur cette soirée du 19. Vous aborderez principalement sur le chemin des Huguenots. Ça s'adresse à qui ?
À vrai dire, je ne sais pas. Parce que j'ai été invité à faire cette conférence par la Société des Amis des Arts et du Musée. Bon, je suis allé à 2-3 conférences, donc c'est une population qui est locale, qui participe, qui est en général pas de la première jeunesse, c'est parce que ce sont des gens qui ont peut-être trouvé un intérêt à d'autres choses que leur vie professionnelle. Mais il n'y a pas que. Enfin, je voilà. Donc, mais je suis pas, j'ai pas, j'ignore qui va venir. Est-ce que c'est la partie plutôt jeune, plutôt protestante, plutôt plus âgée ? Je ne sais pas quelle est la partie de ces qui va venir. Sinon, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse soit aux gens qui ont envie d'entendre parler de voyage à pied, parce que c'est un vrai voyage à pied. C'est quand même du Poët-Laval à Genève dont je vais parler, c'est quand même 500 km à pied. Donc à travers des paysages extraordinaires que sont d'une part le Vercors, notre région, mais ensuite la Chartreuse, Et puis ensuite, on arrive sur un paysage beaucoup plus simple, mais qui est Chambéry, Aix-les-Bains. On va jusqu'à la frontière suisse. Et puis ensuite, on a aussi, c'est aussi merveilleux et tellement facile de longer le lac Léman et d'aller jusqu'à Lausanne. Ça s'adresse également aux gens qui ont envie de savoir comment ces gens qui un jour décident de, parce qu'ils sentent la persécution arriver, ils décident de tout quitter. Parce que si le chemin est un chemin aujourd'hui d'agrément, ça a été avant un chemin d'exil, de souffrance, de mort. Donc les gens qui ont envie d'un peu de savoir comment on pouvait voyager quand on s'exilait ou comment ils ont voyagé quand ils s'exilaient, voilà, peuvent être aussi intéressés. Et puis après, tous ceux qu'un récit d'aventure peut passionner à un titre ou à un autre. Voilà un petit peu le champ des personnes pouvant être intéressées est assez large. Même si je ne sais pas, il y aura peut-être que 3 personnes, je ne sais pas.
Je voulais savoir, par rapport à votre parcours en France, je voulais savoir qu'est-ce qui reste en tant qu'observateur de la religion au quotidien.
Beaucoup plus de choses de ce qu'on imagine. Regardez aujourd'hui, et je suis aussi un passionné d'actualité et de politique, enfin au sens noble du terme, aujourd'hui on a une montée des fondamentalistes partout. On a certes celui qu'on entend tous les jours, qui est le fondamentaliste islamiste, qui n'est pas l'islam au sens pur du terme, mais les juifs, la religion juive est fondamentaliste, ce sont eux, j'espère que je ne me ferai pas d'ennemis, mais ce n'est pas moi qui le dis, 10% de la population est orthodoxe, et ce sont eux qui sont au pouvoir avec Netanyahou en Israël. Et quant aux catholiques, il y a de plus en plus de fondamentalistes catholiques, voire des fondamentalistes chrétiens. Donc on a un retour des fondamentalistes, et je ne sais pas quelle préscience a eu Malraux lorsqu'il a dit au 19e siècle, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, ni ce qu'il a voulu dire vraiment. Je ne suis pas en mesure, peut-être que des gens peuvent le comprendre, mais on a vraiment un retour aux religieux. Et si vous regardez l'information, regardez le problème, les islamistes, effectivement, massacrent un certain nombre de personnes, mais par ailleurs, en Chine où actuellement en Birmanie, ils sont massacrés, les Rohingyas sont massacrés. On est toujours Poutine avec la Tchétchénie, les chrétiens d'Orient qui sont massacrés. Donc si en France on a cette chance de la laïcité que je ne vais pas commenter parce que c'est le grand débat actuellement et je ne veux pas rentrer dans ce débat politico-politicien, mais si on a la chance effectivement de pouvoir avoir cette liberté de conscience qui est inscrite dans les droits de l'homme, enfin de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ce n'est pas vrai dans les autres pays et ce n'est pas vrai d'une partie de la population française qui le refuse. Et là, je ne parle pas seulement des gens émigrés d'une autre religion. Je parle également de ça. N'oublions pas que on a tenté, d'ailleurs, je crois que ça n'a pas été fait, de mettre que l'Europe ait racine chrétienne. Alors, moi, ça ne me dérange pas, si je peux donner un avis à ce sujet-là, qu'on déborde un peu de mon sujet principal, mais ça ne me dérange pas qu'on dise que l'on a une partie des racines chrétiennes, mais ça me dérange qu'on résume l'Europe à 2000 ans. Parce que l'Europe, elle s'est forgée bien avant 2000 ans. Et si on dit des racines chrétiennes, ça veut dire qu'on fait démarrer l'Europe et son origine qu'il y a 2000 ans, 2 petits millénaires, alors qu'on est quand même ce que je pense on oublie un tout petit peu, on est quand même de cette civilisation du monde méditerranéen et qui a 3, 4, 5 000 ans. Et Europe par elle-même, la déesse Europe n'était pas franco-française.
Et les peintures rupestres, hein, qu'on peut dater de 30 000 ans
absolument.
Parfois. Donc déjà un moyen de communication.
Absolument. Oui. Non, on a Lascaux qui doit être à 20 000 et puis ou 40 000 et puis l'autre, j'ai oublié l'autre grotte qui est à 20 000. Et quand on regarde d'ailleurs les dessins à 20 000 ans d'écart, c'est la même chose. Mais c'est fabuleux. Donc voilà, c'est pas que je conteste le fait que des gens veuillent envie de dire je suis chrétien. Je trouve que c'est leur droit, à condition qu'ils n'empiètent pas sur le droit des autres. Mais pourquoi ramener l'Europe à 2000 ans d'existence ? Nos sources, et nos paysages que je traverse, alors là, on revient au paysage, les paysages que je traverse, voir les architectures restantes, lorsqu'on voit ce qui reste du monde romain, lorsqu'on voit ce que le monde du monde gaulois, ont plus de 2000 ans. Donc, je trouve que les Celtes, qui étaient quand même, dont on a hérité d'une certaine manière, sont des gens qui ont plus de 2000 ans. Voilà. Mais là, aujourd'hui, je pense, et j'espère que les auditeurs me pardonneront, je crois qu'effectivement, le religieux est fortement de retour en Europe. Et je crois qu'il n'a jamais quitté les autres régions, sachant que le religieux, ce n'est pas que nos trois religions monothéistes, hein, c'est vraiment tous les types de croyances qu'il peut y avoir, celles qui sont connues du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Mais encore d'autres croyances que moi j'ignore, dont je ne parlerai pas parce que je les ignore, mais elles existent.
Est-ce que la religion, bon, ça c'est la dernière question si c'en est une, est-ce que la religion c'est de l'ordre de la conviction dans l'intime ou alors elle est devenue de connivence médiatique?
Bon, je vais essayer de répondre encore une fois là, qu'on me pardonne, je ne suis pas un spécialiste.
Non,
c'est, un
mais c'est votre avis, question.
Il y a plusieurs choses. La première, reformulez-moi la question. Quand vous l'avez formulée, j'ai quelques idées qui sont passées. Reformulez-moi. Est-ce que la religion...
Doit-elle être une conviction intime ou alors est-ce que aujourd'hui...
Alors, bon, pour avoir quand même travaillé sur les religions, je n'en parle pas tout à fait par hasard, sinon je ne me permettrai pas. La religion juive, chrétienne, les religions juives, chrétiennes et musulmanes, qui sont les religions du livre, sont des religions révélées. Donc ça veut dire quoi? C'est que la foi, selon ces religions, c'est un don. C'est-à-dire vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Bon, même si dans certaines régions, les musulmans pensent que vous devez être musulman, quoi que vous pensiez. Mais en réalité, ces trois religions sont des religions révélées. Les religions révélées, c'est un don. Vous l'avez, vous n'avez pas ce don. Voilà. Après, il y a d'autres formes de croyances qui vont de religion du sacré, de l'idolâtrie jusqu'à la philosophie. Donc le bouddhisme étant plus quand même une philosophie qu'une religion, là c'est un peu différent, ça devient la conviction. On a, à mon sens, on a une conviction, on a une... Bon, je vais quand même tempérer mon propos et revenir au Padegno de cette manière-là, si vous voulez. Il y a aussi le fait de la culture. On est dans une religion, on est dans une langue, on est dans un pays, on est dans une religion. Voilà. Après, est-ce que tout le monde fait la démarche de s'interroger sur le bien fondé de la religion ou de la culture dans laquelle on est né? C'est pas certain. Mais déjà, ça, c'est une première chose. Là, je crois que ça, le culturel, pour moi, est très fort dans le culturel. On est né dans une religion, on est né dans un pays, on est né dans une langue, et ça, on peut pas le changer, pas vraiment. Enfin, ceci étant, remarquons quand même que le Padegno est né quand même de la réforme, c'est-à-dire en 1517, un moine, Luther dit au Vatican, parce que lui aussi était chrétien, enfin, il n'y avait pas chrétien, écoutez, il y a un certain nombre de choses qui me semblent un peu aberrantes, notamment vendre des parts de paradis argent comptant. Bon, voilà, et il s'avère que Rome ne cède pas et que Luther, alors bon, je simplifie beaucoup, hein, que le public me pardonne, bon, que Luther maintient sa position et que ça va y avoir un vent fort sur l'Europe, et qui fait que en 1530, pour prendre l'exemple de Die, eh ben le clergé passe au protestantisme. Mais ce que j'essaie d'expliquer dans ça, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, ni par les catholiques, ni par les protestants ici, c'est que ce n'est pas des protestants qui arrivent. C'est qu'un matin, la moitié de la rue est passée, des gens qui vivaient ensemble depuis des siècles, la moitié de la rue est passée au protestantisme, la moitié est restée au catholicisme. Comme Adieu le fit, d'un côté de la rue principale, c'était les protestants, de l'autre côté de la rue, c'était les catholiques. Il n'y avait rien qui a changé. Les pierres étaient les mêmes, la rue, le ruisseau, tout était le même. Les visages, quand on ouvrait la fenêtre, étaient les mêmes. Sauf qu'il y a des gens qui avaient donc cette conviction, changé de conviction. Là, je ne jugerai pas parce que, encore une fois, je reviens à ce que je dis quand même, en plus de tout ce que je viens de dire, je crois que chacun doit pouvoir croire en ce dont il a envie de croire, c'est que sa propre conviction, mais ça devrait rester dans l'intime.
On va terminer l'émission, hein, l'heure étant passée. Je voulais savoir, vous avez un site internet pour connaître ce que vous produisez ?
Pas vraiment, non, à part le site sur lequel de l'éditeur Transboréal qui recense un certain nombre d'écrivains voyageurs. Donc effectivement, en faisant www.transboréal.fr, en tapant Philippe Lemonnier, en cherchant Philippe Lemonnier, on y trouve effectivement une mini-biographie, les ouvrages et expositions photographiques, les ouvrages que j'ai commis, expositions photographiques que j'ai faites, on y trouve mon état d'esprit, on y trouve voilà, un certain nombre de choses. Sinon, non, je n'ai pas de, au grand dam de certains de mes éditeurs, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de site et... Je trouve que j'arrive déjà pas à faire tout ce que j'ai envie dans la journée. Si en plus j'avais Facebook ou autre, c'est ce que disent, comme on le dit aujourd'hui, c'est chronophage.
Voilà, Transboréal, je pense que doit avoir suffisamment informé.
Ah oui, mais non, mais Transboréal, c'est un éditeur de livres de voyage. Moi, j'ai pas édité chez lui, mais lui recense 100 ou 200 écrivains voyageurs ou voyageurs. Et donc, il a ouvert des pages pour ma propre personne. Voilà, on peut retrouver.
Eh bien, merci Philippe Lemonnier. Alors, rappelons aux auditeurs, vendredi 19 janvier à 15h, dans l'après-midi donc, une conférence sur le chemin des Huguenots. Voilà.
Et sinon, le livre.
Et le livre
qui retrouver sera... chez Mosaïque.
Il sera présent aussi
Non, enfin, il n'y aura pas d'éditeur, pratiquement, mais on peut trouver le livre donc, sur le chemin des Huguenots dans toutes les bonnes librairies, et celle de Die Mosaïque n'échappe pas à la règle. Voilà, édition Ouest France.
Merci Philippe.
Merci de cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de parler dans cette région qui est un peu la mienne maintenant de mon travail. Merci.
Au revoir.
Interview.
Au revoir.